France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Des journalistes qui ne cherchent pas à découvrir, mais simplement la confirmation de leur savoir. Trop peu de critiques prennent des positions audacieuses. En revanche, trop de gens croient s'y connaître. Il s'agit de peinture, d'art, de tableau. Un tableau qui ne doit jamais sortir d'une galerie s'il n'a pas été acheté à l'argent. S'il n'y a pas sacrifice, il n'y a pas de lien entre le tableau et l'acquéreur. Alain Bosquet s'entretenait avec le galeriste Aimé Mag le 23 février 1971 sur France Culture dans l'émission Paradoxe.
Qui dit galerie Magd a en mémoire Braque, Chagall, Miro, quelques-uns des plus grands noms de la peinture universelle et aussi toute une pléiade de jeunes. J'ai l'impression, moi, que comme à la fin du XIXe siècle, les meilleurs peintres français, les meilleures toiles françaises vont à l'étranger. Est-ce que cette situation s'améliore ou est-ce qu'elle empire?
Oh, elle a plutôt tendance à empirer. Tendance à empirer pour plusieurs raisons. Mais je vais vous parler finance, mon Dieu, c'est la raison, la principale raison. Parce que si nous regardons le pourcentage des amateurs de peinture, de gens qui achètent de la petite peinture, la densité des acheteurs par rapport à la population, elle est la plus importante du monde en France. Mais l'amateur, en général, l'amateur français, n'a plus les moyens. Évidemment, 70% des œuvres partent en Amérique. Parce qu'en Amérique, ils ont cette fameuse loi et qui leur permet de déduire un très fort pourcentage de la valeur d'une œuvre si elle est offerte à un musée tout en gardant l'usufruit. Et en France, nous ne bénéficions d'aucun avantage de ce sens. Il y a bien une loi qui permet de déduire 1 pour 1000. C'est tellement compliqué que finalement, ça décourage les meilleures volontés. Et ça, c'est la cause numéro 1. La deuxième raison est que l'art en France est resté quand même encore un privilège, en somme, un peu d'une élite, disons. La densité des gens qui s'occupent d'art moderne, c'est-à-dire l'art vivant, l'art que nous défendons, est encore très bas. Il y a un intérêt. Mais cet intérêt, c'est un intérêt qui n'est pas mis sur le terrain du désir de posséder une œuvre. Ensuite, la troisième, et que vous m'avez posé la question, pourquoi elle ne reste pas en France, c'est que les achats de l'État sont probablement, dans l'ensemble, le plus bas de toute l'Europe. Et qu'est-ce qu'on a fait? On achète des œuvres en occasion. On essaye de faire la cour, de donner des décorations ou autre chose à des artistes pour qu'ils fassent des donations. Mais vous comprenez que si vous avez un tableau exceptionnel qui passe sur le marché, c'est celui-là que peut-être qu'il faut retenir. Le retenir, ils veulent faire valoir le droit de préemption. Ils veulent empêcher l'exportation. Mais tout ça, ce sont des moyens d'ordre, de police presque, et découragent. Et les gens vont plutôt vendre leurs tableaux à Londres. Parce qu'à Londres, je peux vous citer deux chiffres. À Londres, si je donne un tableau à vendre, je paye rien. C'est-à-dire, la somme que le tableau est vendu, je la paye intégralement. Et il y a, entre l'acheteur et le vendeur, 6%. Bon. En France, ça commence d'être 17,5%. pour les meilleurs marchés, c'est-à-dire les tableaux qui dépassent les 25 millions. Or, 17,5% sur 30 ou 40 millions ou 100 millions, comme ce sont les prix des tableaux actuellement, ça fait très lourd. Et en plus, il y a une autre chose. Si vous mettez un tableau en vente et qu'il ne fait pas le prix que vous désirez, en France, vous êtes obligé de payer les taxes. En Angleterre, si le tableau n'est pas vendu, vous ne payez rien du tout. Donc, vous imaginez ce climat qui est donné. Et donc, voilà les trois raisons principales. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais enfin, les trois principales.
Vous nous dites que l'État n'intervient pas suffisamment. Est-ce que, en prenant les choses à la base, en début de carrière, et non pas en fin de carrière, non pas au moment où le peintre est devenu une valeur internationale, est-ce qu'on peut changer cet état de choses?
Vous évoquez là le problème le plus délicat de notre métier. Vous savez, ça fait 6 ans que nous défendons Alain Jouarang. Nous venons de faire une exposition où nous avons très peu vendu, malgré que nous ayons mis les œuvres très, très, très bon marché. Car pour les jeunes, nous faisons exprès. Mais ce qu'il y a, c'est que le français, le spéculateur français, parce qu'il s'agit... deux spéculateurs, je m'excuse du terme, mais quand ils achètent des peintures de bon marché, rentrent toujours, en plus de l'amour, cet amour est dirigé par dire « je l'achète bon marché, ça vaudra cher plus tard ». Ça, c'est 80% des réactions. Alors, d'autres actions, si par exemple j'ai pu intéresser à Aragon. Aragon a écrit un article de 4 pages dans la revue Les Lettres Françaises. Il a demandé à des poètes d'écrire, mais jusqu'à ce jour... et en dehors d'un article de vous que j'ai vu dans Combat, je crois, il n'y a rien paru dans aucun journal français. C'est-à-dire que l'information, les journalistes n'informent que ce que les gens connaissent déjà. Ils ne cherchent pas à découvrir, mais ils cherchent à avoir la confirmation de leur savoir plutôt que d'essayer de découvrir. Il n'y a plus, je suis peut-être sévère, mais il y a très peu, j'allais dire plus, mais ne soyons pas, atténuons, il y a très peu de critiques et qui prennent des positions très, très audacieuses que les critiques prenaient entre les deux guerres au moment où j'avais 20 ans. On en arrive à un point, vous comprenez, c'est ça, c'est monstrueux, à regretter des Vauxhall et des Camille Mauclair. Il n'y a plus, ni dans ce qu'on peut appeler l'opposition, c'est-à-dire il y a une sorte d'unanimité, et cette unanimité, c'est le silence. Or, la place donnée, par exemple, dans des journaux quotidiens, François ou le Figaro et tout ça, vous avez qu'à le regarder par rapport à l'art, est une toute petite place. Ou alors, il faut qu'il y ait un scandale, un vol de tableau, un peintre qui se suicide, ou quelque chose comme ça. Mais pour les expositions elles-mêmes, c'est une fois tous les 15 jours, ou une fois toutes les semaines, mais réduit à son strict minimum. Ce qu'il y a, c'est qu'en France, il n'y a plus d'informations. Vous comprenez que nous autres, c'est pas nous qui faisons, quand on nous dit, c'est les galeries qui font les peintres. Si le peintre n'a pas de talent, nous pouvons faire toute la publicité du monde, nous n'en vendrons pas plus, etc. Mais il y a quelque chose, c'est qu'actuellement, avec la publicité et l'image de marque, que les gens ont compris, vous avez une multitude de peintres, de sculpteurs dont je ne veux pas nommer, qui ont compris le truc. Ils sont dans les boîtes de nuit à la mode, ils sont aux présentations de mode, ils sont dans tous les lieux où on parle d'eux, et on arrive à parler d'eux sans connaître leurs œuvres. Je connais des artistes qu'on n'a jamais vu rien d'eux et qui sont devenus célèbres sur le plan de l'actualité journalistique. Il y a dans les potins de la commère, je mets dans un tas d'échos qui ne sont pas d'art, et naturellement, ils se poussent. Ils sont un peu, si vous voulez, ils prennent un peu l'exemple de Salvador Dali, ils prennent des... C'est qui est néfaste, parce qu'on dit, voilà, il faut parler, et à force de parler, on arrivera. Et la peinture, est-ce qu'il y a... Alors, ce qui arrive, c'est que pendant une période, il y a eu des jeunes peintres qui ont monté en flèche, parce que justement, ils avaient des relations, ils avaient un public relation. Ils ont même des secrétaires, ils ont même des amis journalistes. C'est une espèce de copinerie, de camaraderie qu'ils se font comme ça. Il n'y a plus la critique véritable. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ces garçons se sont montés très haut. Et actuellement, nous assistons à une véritable dégringolade. Car quand on pousse de fausses valeurs, c'est la vraie peinture qui en souffre, car il existe encore des peintres qui vivent secrètement, qui détestent la publicité, qui détestent la télévision, et qui sont dans leur travail. Il y en a, moi je peux vous citer 20 noms. Vous avez, par exemple, un homme comme Bazaine, qui je défends depuis 20 ans. Eh bien, jamais il y a eu une grande émission sur Bazaine qu'il y a 15 jours que Marianne Oswald a fait, mais qui était plutôt presque une émission sur la Bretagne vue par Bazaine plutôt que sur son œuvre elle-même.
Et pourtant, c'est un peintre célèbre. Est-ce qu'il est indispensable que l'amateur de peinture achète une toile? Est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord la lui louer, lui demander une mensualité, établir au fond des liens nouveaux qui finalement reconstitueraient une sorte de maçonnerie? Peut-être est-ce que la conception d'une galerie où l'on doit se rendre, où l'on doit acheter, est une chose périmée?
Vous savez, nous avons tenté de nombreuses expériences. Et il y en a certaines qui sont émouvantes et qui nous font beaucoup de plaisir. Nous avons un petit instituteur de la Creuse et qui est venu nous voir, qui nous a acheté un tableau. Et cet instituteur gagne quelque chose comme 85 000 à 100 000 francs par mois. Donc il était hors de question qu'il achète ce tableau. Mais il nous a demandé de le payer en 2 ans par mensualité. Mais nous avons accepté. Et nous l'acceptons toujours. La location, nous avons tenté l'expérience. Mais là, pour la location, se passe un phénomène qui est, si vous voulez, la conséquence de la trop grande diffusion de l'art, si vous voulez. Il y a trop de gens qui croient s'y connaître et qui sont pas toujours désintéressés. Alors, le tableau, nous avons pris une méthode. Un tableau ne sort jamais de chez nous s'il n'a pas été acheté. Car au fond, l'acte d'achat d'un tableau, même d'un prix restreint, doit être un sacrifice. S'il n'y a pas sacrifice, il n'y a pas amour, il n'y a pas cette espèce de lien entre le tableau et l'acquéreur. Il faut qu'il y ait un sacrifice, si petit soit-il. Tout de suite avant la guerre, quand on commençait de parler de construire des logements ouvriers au moment du Front populaire, et tout de suite après la guerre, que j'ai vu les plans de construction des HLM et autres, et que j'ai vu qu'on allait construire, rien qu'en France, 400 000 logements par an, j'ai multiplié ça par l'Europe, et je me suis dit, si supposons on arrive, il y a 10 pays d'Europe, qu'on arrive à 4 millions d'appartements, à 4 murs, ça fait 16 millions de murs, et comme il y a 3 pièces par appartement, ça fait 3 fois 6, 18, ça fait 48 millions de murs sur lesquels il faudra mettre quelque chose. Et j'étais le premier. Je suis contre la reproduction en peinture. La reproduction, pour moi, est une trahison. Et donne de fausse le goût. Donc, j'ai demandé aux artistes, à tous, si bien à Matisse qu'à Bonnard, qu'à même à Picasso, de faire des lithographies originales que l'on puisse vendre à un prix relativement bas, mais qui cesse d'être l'estampe que l'on met dans un carton comme l'amateur d'estampes que nous connaissons, mais que l'estampe devient un élément mural. Et j'ai formé des ouvriers qui ont trouvé dans les ressources de la gravure sur cuivre des gravures, par exemple, de Miro, qui ont une matière beaucoup plus importante qu'il peut y avoir sur une peinture. Donc, si vous voulez, cette espèce d'engouement qu'il y a pour la gravure, surtout dans le sens où nous le faisons, c'est-à-dire uniquement original, à compenser un peu le manque de crédit que les gens ont pour acheter des œuvres originales. Maintenant, ils subcollent la spéculation, mais ça, j'y suis pour rien. Moi, je les vends au prix de parution après qu'elles suivent leur vie.
Est-ce qu'à votre avis, la télévision aide à dissiper la diffusion des fausses valeurs? Est-ce que la propagande de l'art est bien faite, suffisamment faite, ou au contraire, est-ce qu'elle est, à votre avis, insuffisante?
Vous doutiez de la réponse que j'allais vous faire. Je suis un grand amateur de télévision, non pas pour ma vision, mais je pense que c'est le grand moyen d'information future. Et avec l'avènement de la cassette, je crois qu'il va y avoir une espèce d'explosion. Mais pour parler de la télévision, j'ai été obligé d'être producteur de films d'art. Pourquoi? Je vais vous citer un exemple. Il y a 4 ans, j'ai fait une exposition qui s'appelait La Revue Blanche. C'était le centenaire de La Revue Blanche, la création de La Revue Blanche. Et il y a très longtemps, puisque Bonnard m'en avait tellement parlé, Bonnard, Vuillard, m'en avait tellement parlé, que j'ai cru de mon devoir de faire quelque chose. Nous avons fait une exposition, nous avons mis 4 ans pour la préparer. Nous avions ramassé des documents extraordinaires sur Toulouse-Lautrec, sur Cézanne, l'enterrement de Cézanne où assistaient Renoir et Toulouse-Lautrec. Enfin, des documents absolument bouleversants, des manuscrits, des peintures. Vraiment, c'était une exposition. J'ai téléphoné, par exemple, à l'ORTF, j'ai dit, écoutez, cette exposition, on ne pourra plus jamais la refaire. Or, la Revue Blanche, en tant que littérature, peinture, esthétique, a été un des plus grands moments, un des plus gros éléments de l'époque 1900, avec Fénéon et les frères Natanson. Avec, quand vous pensez qu'il y avait Debussy qui faisait la critique musicale, sous le nom de Monsieur Croche, pour vous citer qu'un exemple, c'est eux qui ont fait paraître les premiers manuscrits de Proust, les premiers manuscrits de Gide, etc. Donc c'était un événement. Je n'ai trouvé aucun écho à la télévision, pourtant ça ne leur coûtait rien, tout était prêt. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de le faire moi. Et j'ai pris une équipe et nous avons filmé, qui fait un très joli petit film. Donc il y a 4 ans qu'il est fait, je l'ai proposé, tout le monde sait qu'il existe, mais jamais personne n'y a montré un intérêt. Ensuite, vous pensez que je suis le seul à avoir des films sur Bonnard. Bonnard n'a jamais été filmé que par moi. Sur Matisse, en train de faire le portrait de ma femme, entre autres. Sur Braque, j'ai 5, 6, 700, 800 mètres. Mais je n'ai aucun intérêt. J'ai des films sur les artistes contemporains, sur Khemenni, sur Miro. J'en ai 7 sur Miro. Mais jamais. Et par contre, c'est ce que je ne comprends pas. Il y a un artiste qui leur plaît. Ils ont des budgets de 24 ou 25 millions pour aller faire un film sur cet artiste qui est un artiste secondaire. Alors je ne comprends plus. C'est où c'est que la grande copinerie de cette énorme machine joue à fond et qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être critiqués, car évidemment, quand je me souviens que Jean-Marie Drault a fait un film sur Giacometti dans les heures chaudes de Montparnasse, c'est un chef-d'œuvre. En tout cas, cette partie de Giacometti, je ne parle pas de l'ensemble. Mais le nombre de difficultés, et il a été son propre producteur, vous comprenez, il a été obligé de faire des accords, de l'imposer, ça a été une lutte. Or, c'est le seul film valable qui existe sur Giacometti. Alors, vous dites, l'effort de la télévision, il faut que ce soit cohérent. Il ne faut pas que, par hasard, au caprice de quelqu'un, on fasse un film sur l'un, sur l'autre. Il faut prendre un public, faire une éducation, si on le prolonge à fond, par exemple, dans le pop art. Évidemment, on va à l'encontre du but, parce que le pop art est né du surréalisme. Et il a évolué pour revenir vers un réalisme. Vous comprenez ? Il y aurait des émissions sensationnelles à faire pour faire cheminer la connaissance de l'art de notre temps, pour montrer aux gens qu'il y a quand même une tradition dans l'art moderne, qu'il soit visuel, auditif, il y a une tradition. Les peintres sont des révolutionnaires, c'est entendu, mais parce que intuitivement, ils sentent quelles sont les valeurs, les réflexes qui nous font trouver une chose belle. Moi, quand je regarde un Velázquez, je vous assure, je me fous des traits du personnage. C'est ce que je regarde, c'est comment c'est peint. Or, comment c'est peint, si on fait... Je voulais faire un film sur Velázquez et Picasso, pour partir de Velázquez, arriver à Picasso. Ça m'a été interdit, le gouvernement espagnol ne m'a pas donné des autorisations. Mais c'est immense. Prouver même en France, si on veut dire, où est arrivé l'art moderne en passant... par exemple, je remonte pas plus loin, mais en passant de la Croix pour arriver à nos jours avec l'impressionnisme, le cubisme, tout ça, il y a, mais jamais personne ne l'a fait. Et c'est pourtant l'élément essentiel de la connaissance de l'art de notre temps, cette démarche vers cette adaptation, cette espèce de pré-révolution que l'on sentira dans les mœurs, mais qui était dans la peinture. Moi, à mon avis, c'est là la vraie information, la véritable information que l'on doit faire, et non pas arriver en pleine figure et leur donner l'art le plus récent, le plus moderne, sans une préparation.
Je voudrais maintenant parler d'Aimé Magde et de la Fondation Magde à Saint-Paul-de-Vence, car on dit depuis quelques années que ce qui se passe d'intéressant au point de vue de la création s'est déplacé légèrement vers la Suisse, vers l'Allemagne, voire vers l'Angleterre, et surtout, bien entendu, vers New York. Est-ce que vous avez l'impression que, étant donné tout ce que nous venons de dire, de constater la carence de l'État et du français moyen, est-ce que vous croyez que le créateur français en a pâti?
Vous savez très bien que l'art suit toujours les pays assez riches où l'artiste trouve ses moyens de vivre. Mais j'ai fait une expérience. Je l'ai faite de bonne foi et je n'ai fait pour rien prouver. Mais j'ai fait l'année dernière à la Fondation une exposition que nous appelons l'art américain, l'art vivant en Amérique, aux USA plus précisément. Cette exposition où j'ai pris le plus grand critique d'art, le plus honnête, puisqu'il est le correspondant même du Monde à New York, pour organiser cette exposition de façon à m'enlever, moi, de tout parti pris, que l'on n'aurait pas manqué de dire. Cette exposition a été faite donc en toute conscience. Ce que je peux dire, c'est que si nous faisons demain la même exposition pour l'Europe, je ne parle pas seulement de la France. Si vous permettez, quand on compare à l'Amérique, il faut prendre l'Europe, parce que la France avec 40 millions d'habitants et l'Amérique avec 220 millions, la proportion est faussée. Mais il est évident que, en qualité, nous ferions la même exposition, c'est-à-dire un choix, comme il a été fait en Amérique, il est évident que l'art est nettement plus vivant, supérieur en création que ce qu'il est en Amérique, c'est l'évidence. Je ne veux pas dire qu'il ne se passe rien en Amérique, il se passe beaucoup, mais c'est une autre forme d'art. L'Amérique actuellement, c'est ma position, et j'y vais très souvent, est dans un état révolutionnaire. Non pas révolutionnaire dans le sens romantique du mot, mais elle est véritablement, le pays est vraiment dans un état révolutionnaire et la révolution existe. Il y a une forme d'art qui se crée, c'est l'art collectif. L'art pour la collectivité, c'est-à-dire le pop art, le minimal art, l'opt-art, je ne sais pas, il en suit des modes toutes les semaines. Et qui arriverait, où ce que l'artiste et la conception d'une œuvre d'art, qu'elle soit mise dans une usine, qu'elle soit réalisée à des milliers d'exemplaires, ça devient un gadget. Et là, dans ce sens, si on pense que c'est une forme d'art, il est évident que les recherches qui sont faites en Amérique actuellement sont les plus importantes qui se font dans le monde. Bon. Mais c'est peut-être une forme de l'art de demain.
Dans les murs, et j'allais dire dans les jardins de la Fondation, il y a de jeunes peintres, et je voudrais vous demander les résultats de ce côté créatif de la Fondation, en ajoutant que le passé aussi a eu ses difficultés et qu'une certaine dose, je ne dis pas de malédiction, mais de difficulté, n'est pas nécessairement un mal pour un jeune créateur.
Évidemment, nous sommes très près, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté de dialoguer un peu avec vous. Je connais votre position et la mienne est très proche. La Fondation a essayé de créer ce que je voyais qui manquait en France, c'est-à-dire un lieu de rencontre et de création. Et je peux vous citer un cas, j'ai invité trois jeunes Américains, il y avait un peintre qui s'appelle Kelly, il y avait un poète dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, le nom ne me vient pas, et un musicien. Et ils ont vécu ensemble 2 mois, et évidemment Kelly qui actuellement est dans la jeune école américaine, celui qui a le plus de succès et qui est, si vous voulez, qui s'était recommandé de Matisse puisqu'il avait travaillé en France, et qui était venu dans une abstraction absolument totale. Et même au maximum, c'est le minimal art. Et ma surprise a été grande, quand il est venu à la Fondation, il s'est remis sur le motif, comme il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de jardins, il s'est remis à dessiner des fleurs, et ça a eu une énorme influence sur son art, ça l'a humanisé, il a eu ce retour à la nature. Vous dire la Fondation, avant, si vous voulez, avant la guerre de 14, où au début, jusqu'à Montparnasse, les artistes, il n'y avait pas de voiture autant, se réunissaient ensemble, travaillaient ensemble. C'était le bateau Lavoir et Montmartre, c'était Montparnasse. Mais maintenant, ça n'existe plus. Moi, je rêvais que dans un lieu comme Saint-Paul, où ils sont isolés, ils pourraient trouver un climat propice à la création, ou en tout cas à la perception d'un art de notre temps. Je rêve, par exemple, de créer un lieu, si vous voulez, où il y aurait le musée du son, le musée laboratoire du son et le musée laboratoire de l'image. Je parle, un musicien, quand il veut créer une œuvre, pour qu'il s'entende, sa composition. Il faut qu'il puisse disposer de 10 à 15 millions. Il faut qu'il fasse imprimer le matériel d'orchestre. Il faut qu'il y ait des orchestres pour des répétitions, l'allocation d'un lieu. Donc, des jeunes musiciens, il y en a, point, c'est dire pas. Or, actuellement, il existe les moyens techniques, je suis allé les voir en Amérique. On construit un instrument avec des enregistrements sur bande de 70 mm où il peut jouer sa mélodie au piano et il peut interpréter sur le même clavier tous les instruments possibles dans un orchestre. Et il s'entend immédiatement, il peut se corriger instantanément. Donc, ça n'existe pas. Ça a l'air idiot. Techniquement, c'est rien, mais ça n'existe pas. Évidemment, ça coûte beaucoup d'argent. Et avec l'électronique, l'ordinateur, et ainsi de suite. Et du côté de l'image, la même chose, avec les magnétoscopes, enfin tous les procédés d'enregistrement d'image et les possibilités. Un danseur ne se voit jamais que devant une glace, mais il se voit à l'envers. Tandis que là, avec les magnétoscopes maintenant, et je ne me rappelle plus le nom technique de cet appareil qui permet de le projeter en grand, instantanément, sur trois côtés, le danseur peut se voir instantanément et se corriger. Je me bats, j'ai acheté le terrain pour les faire, j'ai fait faire par certes les plans, mais que ce soit pour l'État, que ce soit pour les communautés, que ce soit pour les particuliers, je tombe complètement dans le vide. Or, en faisant de très sérieuses économies, puisqu'en France on a l'habitude, je pense qu'avec un budget de 1,5 milliard d'anciens francs, c'est-à-dire, je ne sais pas, 100 et quelques millions, on pourrait le réaliser. Et je rêve de réaliser ça. Et alors à ce moment-là, la fondation sera le lieu dont j'ai rêvé et qui sera un exemple, un phare, et qui pourra peut-être faire revenir, il suffit d'un petit élément comme ça, pour faire revenir beaucoup d'artistes, car en ce moment, croyez-moi, il y a une tendance à ce que beaucoup d'artistes qui sont en Amérique reviennent en France si on leur donnait les possibilités. Or, vous avez vu, enfin, la position de l'artiste, il faut que j'en parle, actuellement, il y avait un certain libéralisme, c'est-à-dire on enregistrait leur recettes, on faisait 30% d'abattement pour leurs frais professionnels, et puis ils étaient tranquilles. Bon, à partir du 1er janvier, il faut qu'ils tiennent une comptabilité comme un industriel. Il faut qu'ils aient un livre journal. Or, je vois mal les artistes que je connais, je ne veux pas donner les noms, mais partons. Giacometti, puisqu'il est mort, on peut parler de lui. Je voyais mal Giacometti en train de tenir une comptabilité au jour le jour, avec les preuves et tout ça. Alors, ce qui est très grave, c'est qu'un peintre qui dépasse 20 millions de revenus, oh, 20 millions pour un peintre qui commence à une certaine notoriété, si vous voulez, c'est 7 tableaux. Donc c'est très peu. On commence à lui en prendre 60%. Or, le peintre, à ce moment-là, n'a plus envie de vendre. Or, vous avez par exemple l'Irlande qui vient de supprimer entièrement tous les impôts pour tous les artistes qui vont travailler et vivre là-bas. Vous avez la Suisse qui prennent 6% de leur chiffre d'affaires. Vous comprenez, partout, on leur fait des avantages. En France, on dit, oui, mais il n'y a pas de raison qu'un artiste ne paye pas les impôts comme un ouvrier de chez Renault. C'est juste, si on veut, sur le plan social. Mais se pose là un problème. C'est que l'emprise de la société sur l'artiste va être, à mon avis, la chute d'une grande période de création. Parce que qui, un jeune artiste, à 17 ans, va dire « moi, je vais être peintre ». C'est pas ? Je vais être peintre. Qui va lui donner l'autorisation d'être peintre pour pouvoir toucher les allocations familiales et les assurances sociales ? Qu'est-ce qu'on arrive ? Quel est l'organisme qui va désigner, donner l'autorisation à un jeune de faire de la peinture. Alors, nous arrivons à des organismes d'État, à un contrôle, et nous allons finir à un réalisme socialiste, ou je ne sais pas quelle forme, mais qui sera fonction de nos autorisations qu'on lui donnera. Je suis confiant, moi, dans la création de l'art. Mais j'ai peur, parce que, alors, à ce moment-là, les vrais artistes vont être rejetés de la société, absolument. Parce que s'ils veulent continuer de peindre, il faudra qu'ils peignent en cachette dans des conditions épouvantables. Et c'est ce que vous disiez peut-être tout à l'heure, c'est peut-être la source la plus vive de la création dans la douleur, car je connais encore des peintres contemporains qui font de très beaux tableaux quand ils sont le plus embêtés. Mais avouez que notre conscience est un peu révoltée de tenir de pareils raisonnements. Thank you.
C'était Paradoxe. Aimé Mag était au micro d'Alain Bosquet le 23 février 1971 sur France Culture.